Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une histoire absolument extraordinaire aujourd'hui. L'histoire d'un homme qui s'appelle Jacques-Michel Huré. Cette histoire, Jacques-Michel, vous l'avez racontée dans un livre paru il y a quelques années chez Michel Lafon. J'ai oublié 30 ans de ma vie. Vous êtes amnésique des 30 premières années de votre vie. Vous avez espéré pendant longtemps que ça revienne, et ça n'est pas revenu. Et donc, à 30 ans, vous avez dû reconstruire une nouvelle vie sans aucun souvenir de la première. Et vous l'avez fait avec la même femme, avec vous, Martine. Et si j'ai bien compris, vous n'êtes pas loin de penser, Martine, qu'il a été un meilleur mari dans sa deuxième vie que dans sa première vie. Voici cette histoire qui commence le jour où vous vous retrouvez sans aucun souvenir du passé. C'était en juin 1987, une histoire que j'ai écrite avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
J'ouvre les yeux, je reconnais rien. Je suis sur un banc, sur une place pleine de monde. Il y a eu une fontaine, un abribus, une cabine téléphonique. Qu'est-ce que je fais là? Rien, absolument rien ne me revient. Je tente de lancer ma mémoire en arrière, je ne me rappelle ni de mon nom, ni de mon prénom. Je ne sais pas quoi faire. Qui suis-je? Je regarde un film? Je suis pas dedans. Cette scène absolument hallucinante se déroule fin juin 1987, place de l'Opéra, à Paris. Un homme est assis sur un banc, il a oublié qui il est. Tiens, il a une alliance. Une alliance, il sait ce que c'est. Il se dit, donc j'ai une femme. Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il lève la tête, et tout d'un coup, il reconnaît l'Opéra de Paris. Il se souvient de l'Opéra, mais pas de son propre nom. Ensuite, il se regarde. Il porte un manteau rouge, il fouille ses poches, il y a 60 francs dans l'une des poches. Il regarde ses pieds, il porte des chaussons dans la rue. Et ça aussi, il sait que ça ne se fait pas, porter des chaussons dehors, comme ça. Mais il ne sait pas comment il s'appelle. Et là, deux mots lui viennent spontanément à l'esprit. Beaubourg et la Seine. Il sait ce que c'est. Beaubourg, c'est un bâtiment plein de tuyaux. Et la Seine, c'est un fleuve qui traverse Paris. Il sait ça. Mais il ne sait pas ce qu'il fait là, ni comment il s'appelle. Sur le banc, près de lui, il y a un sac plastique. Il l'ouvre. Dedans, il y a une cordelette, un ticket de métro, un jeu de tarot, un crayon mâchouillé, un carnet et une carte de Paris. Tiens, une carte de Paris. Donc je ne suis pas parisien. Il attend un peu, 5 minutes peut-être, il ouvre le carnet, il sait lire. Mais il ne reconnaît rien de ce qui est écrit. Et étrangement, ça parle de Beaubourg et ça parle de la Seine. Il se lève, il déplie la carte, il regarde où est Beaubourg et il se met à marcher. Et il va à Beaubourg et il reconnaît l'endroit. À un moment, il a faim, il a 60 francs dans la poche. Il ne fait pas le lien. Il ne sait pas qu'avec cet argent, il peut s'acheter à manger. Et il revient d'où il est parti. Il revient place de l'Opéra. Il passe la nuit dans un parking au dernier sous-sol et il s'endort avec une peur terrible. Et si demain, j'oublie tout, encore une fois? Mais non, le lendemain, il se souvient de la veille, c'est déjà ça. À un moment donné, il est dans la cabine téléphonique, il dort. 3 policiers frappent à la vitre.
Contrôle d'identité.
Il est paniqué. Il bondit hors de la cabine, il bouscule le flic, il part en courant, il court, il slalome entre les voitures. Et là, il se planque sous une voiture. Le policier le repère, il l'attrape par les chevilles, il lui colle un flingue sur le front.
Viens là, toi. Tu nous as fait courir, fumier.
La suite se passe au commissariat.
Qu'est-ce que tu faisais dans la cabine? Pourquoi t'as pris la fuite? Pourquoi tu t'es planqué, connard? T'es qui? Tu fais quoi? Et tes papiers, ils sont où?
Il ne sait pas quoi répondre.
Je sais pas qui je suis.
On lui tente un procès-verbal, mécaniquement il le signe, et là il réalise que sa signature est sans doute un bout de son identité, un bout qui lui est resté. Le lendemain, on l'emmène à l'hôpital Sainte-Anne, le plus grand hôpital psychiatrique de Paris. Et là il se dit, super, on va prendre soin de moi. Il va vite déchanter. Et là, on le déshabille et deux infirmiers l'examinent sous toutes ses coutures, à la recherche d'indices.
Appendicite ? Positif. Trace d'opération ? Cicatrice à la cheville droite. Des blessures ? Positif. Large bleu de la nuque à l'épaule.
Et à partir de là, un rituel s'installe. Déjeuner, médoc, goûter, médoc, dîner, médoc. À l'hôpital psychiatrique, on gobe des médocs. Est-ce que ça sert à quelque chose de bourrer un amnésique de médicaments? C'est une autre histoire. Et à chaque fois, on lui tend un verre d'eau sur lequel il est écrit « Monsieur X ». Dans le petit carnet qu'il a retrouvé dans le sac plastique sur le banc de l'opéra, il est écrit « N'oublie pas d'écrire ». Alors il s'accroche à ça. Ça devient son obsession, écrire. Il noircit des pages et des pages. Il raconte ses journées en détail. Et comme l'infirmier lui prend tout ce qu'il écrit, ensuite il se met à dessiner comme un dératé en se disant « On sait jamais. Peut-être que je vais dessiner ma maison ou ma femme. » Mais rien ne vient. Ce qu'il ne sait pas, c'est que depuis le début, un médecin scrute ses écrits et ses dessins. Un matin, à 10h, on l'emmène dans son bureau. C'est un grand type barbu.
Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur C. Et je vais m'occuper de vous.
Ah ? C'est vous qui allez me dire ce que j'ai ? J'ai quoi ?
Vous êtes amnésique, monsieur.
Et comment ça m'est arrivé?
Vous êtes arrivé ici avec un bel hématome qui va de la nuque à l'épaule gauche, 20 cm sur 10 de large. Vous avez reçu un coup, manifestement, et ça peut expliquer votre amnésie.
Ah,
on va y arriver, monsieur. Ce sera dur, mais je serai là à vos côtés et on finira par savoir qui vous êtes, promis.
Dites, si je continue à écrire et à dessiner, on me les enlèvera plus?
Hein? D'accord.
Je peux arrêter les médicaments?
Hein? Ça non.
Mais les jours passent, les rendez-vous avec le docteur C s'enchaînent et rien n'émerge. Rien sauf une chose. Il paraît clair que Monsieur X a oublié tout ce qui est affectif. Il a oublié sa maison, ses amours, sa femme. Un jour, le médecin lui dit
« Je voudrais vous proposer une expérience. Elle est un peu douloureuse, elle est assez violente et inhabituelle. Mais est-ce que vous connaissez le pain total? Vous savez, on appelle ça le sérum de vérité. Ça va vous faire dormir, mais moi, ça va me permettre de vous accompagner dans votre esprit, d'entrer dans votre inconscient. » Vous seriez d'accord?
Bah, au point où j'en suis, moi je suis prêt à tout.
Très bien. On commence demain.
Au point où j'en suis, j'aurais accepté qu'on m'ouvre la tête sur toute sa longueur, qu'on me charcute le cerveau, qu'on le presse comme une éponge pour analyser ce qui en sortirait. Le docteur C lui fait signer des papiers. Il lui fait signer tout un dossier sur lequel est écrit « Narco-analyse par pain total ».
et il oublie de lui dire que c'est une technique très controversée. Et donc le lendemain, on l'allonge sur un divan. Le docteur a promis de tout enregistrer. Il pose donc un magnétophone et il lui fait une piqûre. Je n'entends plus que la voix du docteur qui me quitte dans l'oubli, qui me rassure. Sa voix se fait plus lointaine. Mes paupières pèsent une tonne. Je flotte.
Monsieur X ! Monsieur X, réveillez-vous ! Il faut manger !
Ma tête est pleine de gravier. On croirait que je respire du coton. Je n'ai aucun souvenir de ma séance. Le lendemain, on lui fait passer le rapport écrit de cette séance. Ça n'a rien donné. Alors il faut recommencer. On recommence. Et à nouveau, c'est un échec. Il n'a rien lâché. Et là, c'est lui qui propose.
Allez, Doc ! On se fait un dernier voyage, ok ?
Troisième séance. Quand Monsieur X se réveille, cette fois le docteur C est là, tout sourire.
On est peut-être sur une piste.
À un moment, soupin total, le docteur C lui a proposé le mot « perdu ». Et là, il a répondu
« corné ».
Or, le mot « corné », hormis pour désigner une trompette, est très peu utilisé en langue française, sauf dans l'est de la France. Là-bas, ils disent cornet pour désigner un sac en plastique. Ils disent cornet comme d'autres disent pochon. Donc, Monsieur X pourrait être de l'est de la France. Premier indice. Et un peu plus tard, le docteur a proposé le mot amitié. Et là, Monsieur X a répondu
Charlélie.
Et des Charlélie, il n'y en a pas 36. Le docteur C a tout de suite pensé à Charlélie Couture. Le chanteur, vous savez. Il est de l'Est, lui aussi, Charlélie Couture, de Nancy. Alors le docteur C l'a appelé et il a accepté de passer pour voir s'il le reconnaît. La rencontre a lieu dans le bureau du docteur. Monsieur X entre dans la pièce. Il voit un homme de dos qui se retourne, qui le regarde pendant quelques secondes et qui lui sourit.
Ça alors ? Mais bien sûr que je te reconnais, grand con !
Le type le prend dans ses bras.
Je connais pas ton nom, mais ton visage, oui. Je me souviens très bien de toi. C'est bon, t'inquiète pas, t'existes.
Ils ont fait les 400 coups tous les deux aux Beaux-Arts de Nancy quand ils étaient plus jeunes. Ils ont picolé ensemble. Il n'y a plus qu'à fouiller dans les archives des Beaux-Arts de Nancy. Et on saura comment s'appelle Monsieur X. Ça fait 4 mois qu'il végète à l'hôpital de Sainte-Anne de Paris. Et un matin, le 12 octobre 1987, Monsieur X est en train de dessiner.
Jacques Michel ! Pose tes crayons, le docteur t'attend. C'est moi, Jacques Michel ? Viens !
Il se précipite dans le bureau du médecin.
Bien. Tu t'appelles Jacques Michel Huré. Et je te présente tes parents. Et ta femme Martine. On t'a retrouvé, mon vieux.
Sauf qu'il ne les reconnaît pas. Il ne les reconnaît pas, l'écran noir. Il voit bien leur regard plein de tendresse, mais lui, il ressent rien. Rien. Je sens l'angoisse monter. Je m'interdis de faire une crise devant eux, de peur qu'ils me laissent là, comme un chien au chenil. Je dois tenir le coup. Le couple âgé se lève, se dirige vers moi. Je n'ai pas le temps de vérifier si les traits de leur visage ressemblent aux miens. Leurs bras m'enlacent déjà. La jeune femme n'a pas bougé. Elle est belle. Vraiment. Elle me prend la main et elle dépose un baiser sur ma joue. Et sa femme lui montre alors des photos.
Regarde là. Ça, c'est notre mariage. Et là, c'est ta fille Sandrine. Et là, ton fils Pierre-Henri. Tiens, regarde là. Ça, c'est ton frère, ton père. Et là, c'est ta mère.
Il ne reconnaît personne. Aujourd'hui, on m'a retrouvé et je ne me suis jamais senti aussi paumé. Jacques-Michel Huret quitte Sainte-Anne 3 semaines plus tard. Il a passé tout ce temps à regarder les photos. Rien n'est remonté à la surface. Alors quand il quitte l'hôpital, c'est en quelque sorte un nouveau-né. Un nouveau-né de 122 jours, qui serait né place de l'Opéra, à Paris, et qui va devoir tout réapprendre. Et le voilà donc dans un appartement qu'il ne connaît pas, avec une femme qu'il ne connaît pas, et qui lui fait la visite.
Regarde ce meuble. C'est toi qui l'as fabriqué. T'es très bricoleur, tu sais.
À un moment, Martine s'absente. Elle va chez les voisins, et elle revient avec un petit truc qui chouine. Un petit garçon, rose et joufflu. C'est Pierre-Henri. C'est son fils d'un an. Deux nouveau-nés face à face. Le lendemain, ses parents viennent le chercher.
Demain matin, tu vas venir vivre chez nous, dans la maison de ton enfance, à Séchamps, dans la banlieue de Nancy. On va bien s'occuper de toi. Puis il y aura ta fille, Sandrine, elle sera avec nous.
L'idée est de réveiller ses souvenirs en retrouvant les lieux de son enfance. Et le voilà donc face à son père, dans ce pavillon des années 60 où on lui dit qu'il a grandi.
Ta mère est allée chercher Sandrine, ta fille. Surtout, tu ne lui fais pas peur. Hein, tu la laisses venir vers toi. Tu verras, elle est très douce, mais tu ne lui dis pas que tu ne la reconnais pas. Tu lui dis « Bonjour ma puce ». Enfin, tu fais comme un papa, quoi.
Il est énervé. Je crois que je l'énerve. Qui est cet homme qui me fait honte? Et là arrive la petite Sandrine, qui sans doute ne voit aucun amour dans les yeux de son père. Elle ne l'embrasse pas. Il s'approche pour lui donner un baiser. Elle a un mouvement de recul. Jacques Michel voudrait aller se promener en ville. Interdit.
Et si tu rencontres quelqu'un que tu connais, que tu reconnais pas, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Tu sais, le mieux, c'est que tu racontes pas que t'es amnésique. Tu ne parles pas de l'hôpital psychiatrique, surtout. On va dire que t'étais dans une maison de repos après une dépression, voilà tout.
Les jours qui suivent, on le torture avec les photos, plusieurs fois par jour.
Regarde là, ça c'est toi qui montes à cheval. Là c'est papa, et c'est toi sur le chemin de l'école. Ici, c'est ton frère dans la piscine. Ça te revient?
Ben non.
Oh, on était si bien avant. Redeviens celui que t'étais, s'il te plaît. On pourrait retrouver tout ça si tu le voulais.
Je me sens prisonnier dans cette maison où, jour après jour, je ne fais que décevoir mes nouveaux patrons. Mes parents sont en train de me détruire à petit feu. Je ne sens rien de positif qui va se produire ici. Et donc, il veut vivre avec sa femme Martine et avec leurs deux enfants. Et les parents acceptent, à condition de trouver une maison près de chez eux. Et là, tout change. Martine lui laisse prendre ses marques. Elle ne le soumet pas à des interrogatoires. Elle lui montre les choses sans lui demander tout le temps s'il se souvient. Elle le prend comme il est. Instable et cassé. Je suis son mari. Je ne suis pas une maladie. Elle ne veut pas poursuivre notre histoire. Elle veut la recommencer du début, avec tendresse et patience. Et le soir, il se retrouve dans la chambre. Et lui, il a envie de baiser, comme il dit. Mais il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment faire. Elle se lève. Elle caresse mon visage. Elle m'embrasse. Elle dit « Enlace-moi ». Elle dit « Caresse-moi, nous avons fait l'amour des premières fois. » Jusqu'ici, Jacques Michel n'a pas cherché à savoir ce qui s'était passé, comment il a pris ce coup sur la tête, comment il a disparu. Le déclic a lieu la veille de Noël. Ça fait 1 mois et demi qu'il est sorti de l'hôpital.
« Dis Martine, parle-moi de nous. »
Alors elle lui raconte. Ils se sont connus durant l'été 80, dans une discothèque. Lui, dessinateur et fêtard, et elle, ouvrière dans une usine de chocolat. Mariage, enfant, maison, 7 années de bonheur. Jusqu'au 25 juin 1987. Ce soir-là, il n'est pas rentré.
J'ai pleuré pendant 48 heures devant le téléphone. J'avais nos deux petits sur les genoux. Tes amis, tes parents arpenté la ville pour te retrouver.
Les gendarmes ont lancé un avis de recherche. Ils ont organisé une battue en forêt, envoyé des plongeurs fouiller la Moselle.
Tu sais, les gens disaient que tu t'étais fait la malle en laissant femme et enfant derrière toi.
Et cette nouvelle vie va s'accrocher à une envie. Une envie qui le fait s'enfermer tous les jours pendant des heures dans le garage devenu son atelier. L'envie de peindre. Et assez vite, il expose. Et ça plaît, figurez-vous. Et il se met à vendre des toiles. Et il donne des interviews. Et un jour, son père, qui est par ailleurs directeur de l'URSSAF, lui dit
« T'as pas le droit de faire tout ça. T'es en arrêt maladie, tu comprends ? Tu dois rester chez toi, tu dois te reposer, rester chez toi. »
Et comme par hasard, le lendemain, Jacques Michel se retrouve convoqué par le médecin de la Sécu.
Vous êtes en arrêt maladie. C'est une période pour vous recomposer, pas pour travailler. Alors vous faites un choix, soit la peinture, soit vos droits à la maladie.
Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous raconter toute la suite. Au bout de 3 ans, effectivement, la Sécu lui coupe les vivres. Et Jacques Michel doit s'inscrire au chômage. On arrête aussi ses ordonnances de Valium qui calmaient ses angoisses. Tant pis, il se fait de fausses ordonnances pour en avoir quand même. Un bébé né, une petite fille, leur 3e enfant, Emmanuel. Et puis un jour, au cours d'un rendez-vous à la NPE, il est question de retravailler.
Quels sont vos diplômes ? Ah, aucune idée. Je suis amnésique dans ma nouvelle vie, j'ai jamais travaillé. Oui, mais avant votre amnésie, vous faisiez quoi ? Quel intérêt, puisque je saurais pas le refaire. Bon, apportez-moi votre dossier professionnel et nous ferons le point demain.
Il y a effectivement un dossier à la maison, des diplômes et des fiches de paye. Le lendemain, la conseillère le regarde.
Bien. Je vois que vous êtes architecte spécialisé dans la rénovation des bâtiments historiques. Et ça tombe bien ? J'ai du boulot pour vous, à Bâle, en Suisse.
Et le voilà donc parti pour son entretien d'embauche. Une tour de verre de 6 étages avec vue sur les montagnes suisses. Et un certain monsieur Van der Scher qui l'accueille.
Bonjour monsieur Huré, je suis content de vous voir. On a besoin d'un architecte français pour s'attaquer au marché des monuments historiques en France. 5 000 francs suisses tous les mois. Ça vous va ?
Ah parfait, parfait, je travaille sur quoi ?
La rénovation de l'ancienne préfecture de Moutier. Va fêter ça avec ta femme. On se revoit demain.
Il est embauché. Sauf qu'il ne se souvient de rien de son métier. Le patron déroule le plan de l'ancienne préfecture de Moutier.
Alors, comment tu vois les choses, Jacques Michel ?
Et la miracle, ça lui revient d'un coup.
Bah écoutez, d'après ce que je vois, les arbalétriers sont en parfait état. Enfin, faudra rajouter quelques contre-arcs pour équilibrer les arcs ici et là. Faut remplacer les corniches, les goussets sont trop détériorés, mais les voûtins et la menuiserie sont récupérables. Je crois que je peux lui redonner son histoire.
Voilà. Je n'ai pas le temps de vous raconter toute la suite, c'est long, une vie. Le livre de Jacques Michel se termine par cette phrase étonnante. J'ai envie de te remercier, toi, qui un soir m'as flanqué un coup sur la tête. Tu m'as volé 30 ans de souvenirs, mais tu m'as offert une autre chance, celle de devenir un homme dont Martine me répète tous les jours qu'il est bien mieux que celui qu'elle avait épousé.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.